Informer, comprendre, agir. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire pour la planète. C'est l'heure de la chronique environnementale avec Jean-Louis Caffier.
Eh bien, chères auditrices et auditeurs, bonsoir et bienvenue dans cette chronique environnementale. Nous entrons dans la deuxième semaine de la COP du climat à Belém.
Absolument.
Et un accord doit être conclu avant dimanche, mais pour l'instant, rien n'est acquis. Les attentes sont fortes.
Oui.
On espère des engagements concrets, notamment sur la réduction des émissions, l'adaptation et le financement climatique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il serait intéressant de revenir sur l'accord de Paris et sur ses objectifs initiaux, 8 ans plus tard. Est-ce que nous avons réellement progressé ? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, comme d'habitude, nous sommes accompagnés de Jean-Louis Caffier. Bonjour,
bonsoir,
Jean-Louis.
Bonsoir
Jean-Louis.
Oui.
Alors, Jean-Louis, tout d'abord, où en est-on aujourd'hui par rapport aux objectifs de l'accord de Paris ? Est-ce que le monde a véritablement avancé depuis 2015 ? Où on est en train de s'éloigner des trajectoires prévues ?
Oui, ben, ça tombe bien, cette question, c'est la principale du sommet de Belém, puisque 10 ans après l'accord de Paris, il s'agit de faire un bilan et de définir de nouvelles priorités, d'augmenter en fait les actions pour lutter contre le réchauffement climatique. On a progressé depuis Paris. Avant Paris, on était sur une perspective de plus 4 degrés. On est aujourd'hui à plus 3, voire plus 2,8 en fonction des études. Ça veut dire que des initiatives ont été prises un petit peu partout dans le monde. Elles sont insuffisantes, mais elles aboutissent quand même à des résultats qui sont chiffrés, qui sont mesurés donc régulièrement partout autour de la planète. Les économies ont été nombreuses dans les transports, dans la production d'électricité, dans les gros domaines industriels, dans les déplacements, les transports, le bâtiment, l'habitat. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets qui sont sur la table. Maintenant, il s'agit de faire 10 ans après, de lancer un nouvel élan pour accélérer, parce que clairement, on est passé de 4 à 3 degrés, oui, c'est bien, mais l'accord de Paris, c'est 2 degrés, voire 1,5, disait Laurent Fabius avec son petit marteau. Donc, on est loin de ces objectifs-là, d'autant que les émissions continuent à augmenter.
D'accord, donc du coup, il y a un réel progrès forcément
oui.
Autour de la température, mais tout ce qui tourne autour des émissions, c'est encore catastrophique, si on peut dire.
Oui, parce que les derniers chiffres sont formels. Les émissions continuent à augmenter, alors qu'il faudrait les baisser d'au moins 6 ou 7% par an pour atteindre ces objectifs de Paris. On en est loin. Alors, tout le monde augmente ses émissions. Les États-Unis en premier, on est à presque 2% de plus sur l'an dernier, sur 2025 par rapport à 2024. C'est beaucoup. L'Europe augmente aussi ses émissions, mais c'est limité à 0,3, 0,4 %. Ce n'est pas énorme, mais
je rappelle
qu'il faut les baisser.
Oui.
Il ne faut pas stabiliser les émissions à leur niveau. Il faut baisser. Il n'y a que ça à faire. Et donc, on est loin d'atteindre les objectifs de Paris. Ça va être compliqué de trouver les financements, de trouver un accord avec tout le monde à Belém. Ça ne va pas être simple.
Forcément aussi, on a la Chine notamment aussi.
Oui.
Qui sont très engagés.
La Chine, c'est assez paradoxal, c'est assez intéressant comme sujet, parce que la Chine fait du business aussi avec le réchauffement climatique. La Chine produit 80% des panneaux solaires photovoltaïques dans le monde. Elle développe aussi des technologies sur les batteries, sur l'éolien, sur tout ce qui est renouvelable. Donc ça, c'est un business pour la Chine. Et puis, le problème, c'est que parallèlement, la Chine a besoin d'énormément d'énergie, et notamment d'électricité. Alors, elle est la première partout. C'est le premier pays en termes de volume pour les panneaux photovoltaïques, pour les éoliennes, pour le nucléaire, mais aussi pour le charbon. Il y a aujourd'hui des centrales au charbon qui sont encore lancées en Chine. Ça représente, sur ce qui a été fait cette année, 80% des besoins d'électricité de la France.
Ah oui,
pour donner une échelle qui est complètement énorme. Alors, ils ont aussi beaucoup d'hydroélectricité avec l'Himalaya. Tout près, il y a des projets pharaoniques de barrages sur la plus haute montagne de la planète qui va aussi contribuer à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Mais pour le moment, la Chine augmente régulièrement.
Est-ce que les COP servent encore vraiment à quelque chose ? Parce que beaucoup de citoyens ont l'impression que ces grands rendez-vous reproduisent surtout des discours et peu de résultats.
Oui.
Est-ce une impression injuste ou une réalité ?
On le dit à chaque fois. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Il faut être réaliste. Trouver des accords avec tout le monde, les petits pays, les gros pays producteurs de pétrole, les gros pays industriels, trouver un accord qui puisse satisfaire tout le monde, c'est quasiment mission impossible. À chaque fois. Et donc, on est obligé de trouver des compromis qui sont souvent des consensus un petit peu mous. Vous vous rendez compte qu'on a évoqué dans les accords des COP, pour la première fois, la question des énergies fossiles il y a 2 ans lors du sommet de la COP de Dubaï. Jusqu'à présent, on n'avait jamais parlé des énergies fossiles parce que les pays producteurs et d'autres pays très consommateurs, type la Chine et l'Inde, ne voulaient pas en entendre parler. Alors, ça avance ça, petit à petit, mais pour trouver un consensus intéressant avec tout le monde, il faudrait vraiment faire des très, 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 très gros efforts. Et pour le moment, tout le monde n'y est pas prêt.
Puis, surtout que tous les pays doivent se mettre aussi d'accord par rapport à COP, aussi de signer. Sinon, tout peut basculer.
Il n'y a pas d'accord s'il n'y a pas de consensus.
Oui, c'est sûr.
Voilà. Donc, on va voir ce qui se passe en fin de semaine. On en reparlera lundi prochain.
On sait que cette année, on observe de nombreuses défections, notamment celle des États-Unis.
Ouais, c'est dingue.
Ouais, c'est un signal très inquiétant, hein, forcément.
Mais c'est complètement dingue. Dingue. Enfin, je veux dire, Trump, il dit ce qu'il veut sur plein de sujets. Mais là, on ne demande pas une analyse ou une opinion sur le réchauffement climatique. On demande à ce qu'on respecte un petit peu les données scientifiques. Il y a des dizaines de milliers de capteurs tout autour de la planète. Il y a des milliers de chercheurs, des milliers de scientifiques qui travaillent sur la question et leurs conclusions sont indiscutables. Oui, les températures augmentent et oui, ce sont les activités humaines qui provoquent cette augmentation des températures sur la planète. Il n'y a pas débat là-dessus. Il y a débat ensuite pour savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va laisser tomber, ce qu'on va créer, ce qu'on va travailler, ce qu'on va chercher. Là, il y a débat, il y a plein de choses à faire. Comment on va financer, comment on va le répartir entre les pays développés et les pays en développement. C'est toutes ces questions-là qui sont dans les COP. Là, on doit trouver, a priori, à Belém, la martingale qui va nous permettre à la fois d'annoncer des objectifs en hausse pour la limitation des émissions de gaz à effet de serre et le financement de tout ça. Donc bon courage pour les participants au Brésil. Ils n'auront pas le temps
de danser l'ambiance
la samba.
J'imagine l'ambiance étant... Voilà, en ce moment, ce n'est pas trop la solution quoi, de danser la samba. Surtout.
Non, et puis là, ce que dit Trump, c'est assez hallucinant quoi, quand même.
Ah, oui.
Dire que c'est le plus grand scandale, la plus grosse arnaque de l'histoire de l'humanité et que ça a été créé par les Chinois pour perturber le commerce mondial. On n'a pas le droit de dire ce genre de choses. Enfin, pour moi, franchement, c'est le pire du pire du pire possible quoi, en termes d'arguments. Alors il faut bien voir
du
que
Donald
les,
Trump,
les États-Unis, c'est pas que Trump. Il y a beaucoup d'Américains qui sont présents à Belém. Ce sont des gouverneurs de grands États, des élus, des scientifiques qui agissent aussi sur leur terrain parce que quand on n'a pas de politique nationale, on peut agir au niveau des territoires, au niveau des États en ce qui concerne les États-Unis. Mais ici, dans la région centre, on peut aussi agir localement. C'est important de savoir que les villes, les départements, les régions ont d'énormes possibilités. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la responsabilité dans les transports, dans le traitement des déchets, dans l'eau, dans les cantines scolaires, dans les écoles, collèges, lycées. Il y a plein de choses qu'on peut faire au niveau local. Et donc l'idéal, ce serait qu'on s'y mette tous et puis qu'on réfléchisse à des objectifs limités. On ne va pas tout résoudre tout seul. Il n'y a pas de solution globale. Il faut que chacun puisse faire à son niveau ce qu'il est possible d'envisager. C'est comme ça qu'on pourra progresser aussi. Il faut que les citoyens, les élus s'emparent de la question davantage pour proposer des solutions.
C'est-à-dire
sur les lycées, les cantines scolaires, sur les transports aussi, sur tout ça. On a vraiment des responsabilités au niveau local qui permettent d'avancer.
Et forcément, je voulais revenir en plus sur les solutions. Est-ce que ça existe encore, les solutions concrètes ?
Oui.
Entre adaptation, transition énergétique, innovation, changement de mode de vie, c'est quoi les pistes réalistes pour limiter la crise ?
Alors, je pense qu'il y a un aspect technique, un aspect d'ingénieur, et puis il y a un aspect de réflexion et plus sociologique, philosophique, si vous voulez. On doit absolument relancer l'éducation en termes de climat, comme on doit le faire d'une manière scientifique pour d'autres sujets, parce qu'on a beaucoup de critiques en ce moment sur la place des scientifiques, leur crédibilité, qui sont... Quand je dis les trucs, je dis, mais c'est pas possible. Comment on peut raconter des choses pareilles? Oui. Donc, il faut renforcer le rôle de la science. Il faut expliquer. Il faut raconter. Il faut aller voir les élèves. Quand je parlais des possibilités au niveau de la région, il y a les lycées, il y a les collèges avec les départements et les écoles avec les communes. On peut très bien imaginer des formations pour tout ça. Moi, je veux bien y aller, parler à des collégiens. Je ne suis pas scientifique, mais j'ai peut-être des choses à leur dire. Mais on peut s'associer avec le CNRS, avec les grands organismes de recherche, le CEA, l'INRA, etc. Dans tous les secteurs, on a des possibilités d'expliquer les choses, voir comment fonctionne sur un plan scientifique notre petite planète. INRA pour l'agriculture et la végétation, le CEA pour l'énergie, le CNRS pour toute une série de sujets importants. Voilà, il faut développer l'éducation parce que les moyens techniques, on les a. Et il faut qu'on soit bien au courant de ce qui se passe et de ce qui peut se passer pour favoriser... l'arrivée de solutions.
Et bah, merci Jean-Louis pour cet éclairage. Et les négociations de Belém sont déterminantes et nous suivons bien sûr leurs avancées dans les prochains jours.
Oui.
Et malgré les difficultés, l'enjeu qui reste immense, il s'agit de savoir que le climat nous laisserons aux générations futures. Et forcément, bien, on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle chronique environnementale et surtout aussi, je pense que ça va être l'épisode final autour de la COP, j'imagine.
On va
encore revenir sur ce sujet-là et de voir aussi...
On verra les conclusions
effectivement,
lundi prochain.
Sûr. Eh bien, merci beaucoup Jean-Louis.
Avec plaisir, à bientôt.
À bientôt.